Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Ray, plafond salarial envisagé il y a quelques semaines à peine, à 86, 88 millions de dollars. Perte des revenus de 1,5 milliard de dollars dans cette fin de saison qui finalement ne peut pas se terminer normalement. Est-ce qu'on peut anticiper? On en a discuté ensemble il y a déjà 2-3 semaines. On parlait peut-être d'un plafond 70, mais tu sais, on jasait, comme dirait l'autre. Mais ça risque d'arriver, Ray, non?
Oui.
66 Mario, même peut-être.
Oui, mais pour aider les auditeurs à bien comprendre, là, les revenus de hockey dans la Ligue nationale de hockey, ça, c'est les revenus liés directement à la tenue de match. C'est ceux-là qui sont calculés à la fin d'une année par l'ensemble des 31 équipes et l'ensemble des revenus nationaux qui tombent dans ce grand pot d'argent-là. Puis l'an passé, Mario, c'était légèrement au-dessus de 5 milliards de dollars US. Puis ça inclut toutes sortes de sources de revenus. Ça inclut pas les choses liées, par exemple, aux spectacles puis aux arénas. Ça inclut les choses qui sont liées à la business du hockey, y compris les produits dérivés, y compris la restauration lors des matchs, y compris, évidemment, les ventes de billets puis de loges, puis tout ça. Bon. Alors, le calcul est simple dans la dernière convention collective. 50 % des revenus allaient aux propriétaires, 50 % des revenus allaient aux joueurs, c'est-à-dire l'actif, le produit, les employés. Fait que 50 % d'à peu près 5 milliards, ça donne à peu près 2,5 milliards.
Mm-hmm.
2,5 milliards divisé par 31 équipes, ça arrive à peu près à 80,6. Fait que c'est donc, pour avoir un plafond salarial de 81,5 cette année, ça faisait que les revenus de l'an passé étaient un petit peu plus que 5 milliards. Fait que tu sais, on parle de là, Mario, pour dire ça, c'est notre plafond salarial. Mais quand tu as des revenus qui sont affectés, comme tu l'as mentionné, là, d'au moins 1 milliard, à cause de l'interruption, à cause de cette incertitude, puis que tu n'as peut-être pas tes 12 derniers matchs comme équipe, puis tu n'as peut-être pas de série, bien là, ça veut dire que c'est 20 % Alors, si tu prends ton 5 milliards, ça devient 4 milliards. Puis 4 milliards, quand tu le divises, bien là, ça fait une grosse coupure sur l'argent disponible pour les joueurs. Et à ça, Mario, se rajoute toujours le petit mot magique en anglais qui s'appelle « escrow », ou cette retenue. Une retenue qui est utilisée en faveur des propriétaires pour permettre à ceux-ci de s'assurer que les revenus à la fin d'une année fiscale auront atteint le niveau espéré avant de redonner la somme complète des salaires aux joueurs. Fait que c'est les joueurs qui ont de l'argent en retenue jusqu'à la fin de l'année.
Oui.
Et ça, cette retenue-là, Mario, elle augmente ou elle baisse selon les anticipations, les projections. Fait que pour venir à ton point, là, les projections sont moins bonnes et l'argent va être moins élevé. Alors, on était à 84-88 dans nos projections il y a un mois, là, avant que tout ça éclate. Ça pourrait être autour de 65 à 70 millions pour l'an prochain, Mario.
Et là, il arrive quoi? Parce que là, il y a déjà des contrats de signés. Ça veut dire que ta convention collective, je ne dis pas qu'elle prend le bord, mais il reste que faut que tu t'ajustes, ou bien tu tombes dans une ligue à 15 joueurs par équipe, ou bien tout le monde accepte une diminution de salaire temporaire ou pour une période de temps?
Oui, bien, tu as les bonnes questions. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas forcer des équipes qui ont déjà des contrats en bonne et due forme avec des joueurs de les retrancher ou de réduire ton effectif à 15-16 joueurs. Il n'y a rien de ça qui va arriver.
Mais ça va se faire par l'escrow, non?
Bien, ça va se faire par l'escrow qui va augmenter facilement d'un 10-15 %, Mario. Donc, les joueurs vont en avoir encore un peu plus en attente. Ça pourrait atteindre comme 30 %. Tu sais, 35 %. Ça veut dire que là, tu parles d'un gars qui gagne 1 million, il part à 6,50. Puis là, on y est taxé là-dessus après.
Mais c'est pas pire. La mécanique en place, donc, permet de faire face à une crise du genre, parce que dans le fond, c'est le calcul des revenus. Il n'y a plus de revenus, mais les boys, vous allez gagner moins cher. Donc, le contrat devient le montant du contrat, le 10,5 qui frappe l'imaginaire, devient un montant théorique.
Théorique, Mario, tu l'as bien dit. On a des mesures pour se protéger. Cependant, d'une année à l'autre, comme une crise mondiale première fois de l'humanité, Mario, c'est sûr que la Ligue nationale puis les propriétaires vont devoir concéder quelque chose. C'est-à-dire que tu peux même, d'ailleurs, eux-mêmes, comme équipe, qui sont déjà au plafond, Mario, ils ne voudront pas se faire dire « retranche 15 à 20 millions de tes salaires, ça ne marchera pas ». Fait qu'il va avoir une année exceptionnelle. Et ça ne sera pas cette année, là. Tu sais, cette année, là, l'année, mettons qu'ils réussissent à finir l'année, les pertes vont être moins grandes. Mais s'il n'y a pas de si on ne résume pas la saison, puis on ne la reprend pas, puis on perd 1 milliard, l'an prochain, ça va être l'année exceptionnelle. Puis ce que je veux dire par exceptionnel, Mario, c'est qu'on va faire de la gymnastique mathématique avec l'association des joueurs pour trouver le chiffre qui convient aux propriétaires et aux joueurs pour qu'on puisse jouer cette saison-là, repartir la business, faire tout ce qui est possible pour générer le maximum de revenus sur la planète entière et avoir une saison plus normalisée en 21-22. Et en passant, 21-22, c'est l'arrivée de Seattle dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ben, pas de revenus d'expansion pour les joueurs à partager, mais certainement des revenus de l'équipe de Seattle.
Je te demande ceci. On parle de fermeture d'entreprise, on parle de faillite potentielle, d'une économie qui va avoir les deux yeux au beurre noir dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand cette crise-là, on l'aura traversée. Crois-tu que le marché pourra continuer de consommer le sport professionnel au même prix qu'avant? Le Canadien, on aime ça regarder, mais penses-tu que le marché va être capable encore de se payer les mêmes affaires ou il va y avoir des ajustements qui seront incontournables pour l'industrie?
Mario, on a eu un lockout en 2004-2005, puis ça a commencé avec quelques mois d'arrêt, puis c'est devenu permanent pour la saison. On a raté la saison. Puis on a passé une année complète à planifier un retour au jeu sans trop savoir quelle serait la réaction du public. On a fait des groupes sondages, des focus groups. On a parlé à nos partisans par rapport à l'intérêt pour des billets de saison versus d'autres produits. Puis on se demandait tous qu'est-ce qui allait arriver. Puis Gary Bettman et la Ligue ont innové, ont créé les tirs de barrage, ils ont changé certains règlements sur la glace. Et soudainement, il y a eu comme une frénésie. Les gens s'ennuyaient tellement du hockey. C'est reparti comme jamais. On a eu aussi, avec les Canadiens, l'occasion de repêcher Carey Price, puis les Pingouins ont eu Sidney Crosby. Ça a été productif à tous les niveaux en 2005-2006. Bon. Est-ce que c'est automatique qu'on va revenir vers ce mode-là? Moi, je ne suis pas certain. Ça fait plusieurs fois, depuis plusieurs mois, que je répète que l'avenir des stades, par exemple, Mario, ça va être des stades plus modestes, à plus petite construction. Baseball, football et hockey, basketball
mais,
aussi.
Mais ça, c'est une tendance. On en parlait avant le coronavirus.
Oui, exactement.
Et permets-moi, je ne veux pas rien reprendre de ce que tu as dit, mais le retour au travail après un conflit de travail dans la Ligue nationale de hockey comme condition économique en Amérique du Nord du retour à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vivre là.
Absolument pas. Mais c'est la chose la plus proche.
Oui, non, je comprends.
En termes de réalité pour se comparer.
Mais vous avez réussi à repartir la machine.
Oui.
Tu sais, puis les prix, tranquillement, je me souviens pas qu'il y a eu des économies au retour au jeu. Mais là, penses-tu qu'ils vont être obligés de faire des petits assouplissements sur les prix?
Oui, absolument. Alors, pour la question précise, Mario, je pense que l'industrie va devoir s'ajuster, va avoir besoin de temps, Mario. Tu sais, mettons que les activités reprendraient cet été, là, tu sais, puis on jouerait en plein soleil au hockey jusqu'en juillet ou septembre. À mon avis, Mario, tu vas avoir une période là, d'adaptation. Premièrement, la crainte de ce qui vient de nous arriver comme pandémie, là, ça partira pas de l'esprit des gens d'aller se rassembler dans des stades avec 20, 30, 40, 60 000 personnes. Deuxièmement, il va y avoir un relancement économique. Les gens vont devoir voir leur situation, à savoir si c'est aussi important le sport récréatif de divertissement avec des dollars discrétionnaires qu'avant. Ça, c'est une autre question. Et finalement, les équipes vont devoir s'ajuster, être plus généreuses, être plus accessibles, être plus moderne avec ce qui s'en vient.
Je reviens sur le point, ta question à savoir si on part quelque chose au même niveau ou ben non, si on prend un peu de recul.
On va-tu pas payer le même prix pour aller genre voir un match d'hockey qui coûte une fortune, là?
Moi, je pense que ça va être cyclique puis progressif, Mario, le retour. Je pense pas que c'est automatique que tout le monde va se ruer vers les stades sportifs en grand nombre. Il va y avoir un ajustement, une adaptation et au fil du temps, on va surmonter tout ça, mais tu sais, à court terme, il faudra qu'on soit très prudent dans nos attentes. Puis je pense que les équipes et les organisations vont devoir s'imposer pour aider les consommateurs, les partisans, les jeunes et les moins jeunes de se reconnecter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent des concessions financières, économiques, en termes de générosité de clubs et de ne peut-être pas avoir les mêmes attentes. Parce que, comme tu l'as dit, Mario, bien dit au début, là, c'est pas un lockout d'une saison, un sport, là, c'est la planète entière qui est affecté. Donc, c'est vraiment différent.
Un autre sujet qui touche la planète entière, c'est le report des Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, sinon que, ben, finalement, Houston, le message s'est rendu à Tokyo et chez les dirigeants du CIO, qui finalement entendent raison, là, qui se résignent.
Moi, j'ai deux choses, Mario, que je veux souligner, parce que tout a été dit. Là, pis, un, je pense qu'il ne faut pas non plus accusé Thomas Bach à Lausanne d'être complètement insensible à la réalité. Est-ce qu'il est en retard sur sa décision? Oui. Mais c'est compliqué, le monde olympique. Tu as 200 quelques pays membres. Lui, il fait face à tous ces gens-là. Puis je veux pas le défendre. Je veux juste qu'on se mette dans les chaussures d'un PDG qui a une entreprise de milliards et de milliards de dollars.
Il y a de la place pour la nuance dans la vie, Ray. Là. Fait que oui, vas-y, moi, je suis ouvert à entendre ça. Là.
Absolument. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, nous, au Canada, on a agi plus rapidement. Il y a eu de la pression des athlètes. Puis là, on regarde le CEO, puis le CEO bouge pas. Puis c'est évident là, que c'est gigantesque comme problème qu'on a. Et eux autres bougent pas, mais c'est parce qu'à quelque part, c'est pas qu'ils croyaient fondamentalement, c'est qu'ils doivent réfléchir plus attentivement. Quand t'es le boss d'une entreprise comme ça, tu dois prendre le temps de bien t'exécuter. Ceci étant dit, je change de page, puis je te dis que la possibilité que le hockey et le basketball reprennent cette année s'est améliorée un peu avec le report des Jeux olympiques. Parce que ça a ouvert la fenêtre de l'été. Qui autrefois, il y a quelques semaines, n'était pas là puisque la NBA était dépendante des Jeux olympiques. Ses joueurs y vont pour représenter plusieurs pays. Et la Ligue nationale se devait d'espérer finir avant la fin juillet. NBC diffuse le hockey, NBC diffuse des Jeux olympiques. Il y a des conflits à tous les niveaux. Maintenant qu'il n'y a plus de Jeux olympiques, on vient de se gagner quelques semaines de plus pour peut-être jouer ces sports-là tout l'été, si jamais il y avait un ralentissement, Mario.
Ah, fait que toi, tu vois ça comme une fenêtre potentielle qui s'ouvre. Penses-tu que la NBA ou Adam Silver avait ça en tête quand il a entrouvert la possibilité, ou en tout cas qu'il a fait sentir dans une entrevue que... eux autres, ils n'ont pas renoncé à présenter, là, je sais pas si ça va être un tournoi, tout le monde dans la même ville, dans le même amphithéâtre, pour présenter un trophée des gagnants, mais peut-être qu'il avait ça en tête.
Oui, puis je te dirais l'autre chose, Mario, que, ultimement, ces deux dirigeants-là, Bettman et Adam Silver, eux aussi veulent prolonger la possibilité au maximum, Mario. Fait qu'ils sont pas dans une mentalité d'annuler. Ils cherchent des solutions. Donc, il faut être patient. Et là, ils viennent de gagner quelques semaines de plus. C'est tout ce que j'ai à dire sur le lien olympique et le hockey et le basketball.
Voilà. Et Formule 1, Grand Prix de Montréal, peut-être qu'il pourrait être présenté à une autre date, je ne sais pas, mais il semble qu'on ne l'écarte pas du côté des dirigeants.
Ben, disons qu'il est au bord du gouffre, en tout cas pour le 12 ou 14 juin, Mario, parce que c'est clair que c'est le premier, puis juin, à mon avis, c'est très prématuré. Donc, la beauté, c'est que le Grand Prix du Canada, il y a longtemps, Mario, avait déjà eu lieu à l'automne, si tu te rappelles. Si je me rappelle, moi, en tout cas, je pense que c'était à ce moment-là que Gilles Villeneuve avait gagné le Grand Prix du Canada. C'était en octobre. Donc, il y a cette possibilité-là.
Oui, c'est à d'autres dates dans le temps, oui.
Oui. Puis l'autre chose, Mario, c'est que il y a des Grands Prix qui ne peuvent absolument pas changer de date. Fait que si leur date tombe, ben peut-être que ça ouvre une porte au Grand Prix du Canada qui a plus de flexibilité, à mon avis, en termes de l'utilisation du site. Donc, c'est pas comme le Grand Prix de Monaco dans une ville. Celui-là est déjà annulé pour des raisons évidentes. Mais au Canada, on a plus de manœuvrabilité. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres dates qui pourraient servir pour le Grand Prix du Canada si on devait le reporter.
Mais c'est sûr que c'est un organisme... Je voudrais pas être dans les souliers de François Dumontier, comme de tous ceux qui ont eu des trucs à annuler, mais c'est gros, là. Puis l'industrie touristique, honnêtement, on pourrait même élargir la discussion. C'est le Grand Prix du Canada, c'est l'événement qui provoque le plus de retombées, je pense, d'un océan à l'autre, là, sur une base
Absolument.
Annuelle.
Au Canada, dans une journée, oui. Ben c'est 3 jours, Mario, sur 365. C'est malheureux quand il fait mauvais, c'est malheureux s'il y a une situation comme celle-ci. Tu sais, eux, là, ils travaillent toute l'année pour arriver à 3 jours pour livrer un événement impeccable.
Oui.
Alors, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que non seulement il y a des paiements des grands prix vers la F1 qui ne seront pas faits parce qu'ils ont annulé presque un tiers de la saison, mais en retour, les grands prix et les organisateurs ne génèrent pas de revenus non plus. Donc, on est encore une fois dans la business de perdre des milliards de dollars.
Et d'autres situations qui t'interpellent sur la scène du sport, peut-être, tu sais, j'ai entrouvert une parenthèse sur la NBA, Ray. Est-ce que tu penses imaginable? Quelle formule on pourrait mettre au point? Apparemment qu'ils n'ont pas renoncé. Mark Cuban est en entrevue tout à l'heure à CNN. Je ne sais pas s'il a parlé de ça ou de l'économie, là, mais lui-même, là, je pense que c'est ce matin ou hier, peut-être dans l'élan des propos de Donald Trump qui souhaite voir l'activité économique reprendre aux États-Unis aux environs de Pâques. Qu'est-ce que tu vois comme une formule? Un tournoi tout le monde d'une même ville? Ou?
Ouais, ben Adam Silver a mentionné. Puis encore une fois, Pâques, c'est complètement surréaliste. Là.
Ça n'a pas d'allure.
Ben non, ça n'a pas d'allure. Même parler comme ça publiquement, c'est gênant.
Ouais.
Mais pour revenir à Adam Silver, il avait parlé d'un tournoi de divertissement quelque chose qui était organisé dans des conditions absolument extrêmes, où tous les joueurs auraient été testés, tous les participants, les gens qui seraient à l'intérieur de l'amphithéâtre, mais bien évidemment, Mario, à huis clos, mais pour offrir du contenu télé, du basketball de haute qualité, de la vraie compétition pour au moins offrir quelque chose aux partisans. C'est pas un coup d'argent, de toute façon, il n'y aurait personne dans les gradins. C'est simplement pour garder la connexion vivante et allumée entre la NBA et ses partisans. C'est pas un mauvais concept, mais on n'a pas le choix, Mario, que de tout jeter sur la table et voir qu'est-ce qui fait du sens. Mais on n'est pas rendu là non plus.
Non plus. Eh bien, Ray, merci beaucoup de cette prolongation. Fort apprécié de cet humble animateur que je suis et sûrement du public qui est à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Ray.
Toujours un plaisir, Mario.
Partagez. Bye-bye. Bonne fin de soirée.